Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 se maintiennent en cette fin de mois de février 2021. Et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. L'Argentine reçoit les premières doses du vaccin chinois Sinopharm après le scandale sur la vaccination de fonctionnaires pour lequel le ministre de la Santé a démissionné. En Équateur, le second tour des élections du 11 avril sera entre le gauchiste Andrés Arauz et l'ancien banquier Ernesto Lasso. Le Mexique célèbre 200 ans d'indépendance et 5 siècles de résistance aztèque aux Espagnols. Le gouvernement argentin lance un conseil économique et social pour élaborer des politiques à long terme. En Colombie, l'armée est accusée d'avoir exécuté plus de 6000 civils et de les avoir déclarés comme guerrilleros tués au combat. Sport, la Coupe Amérique 2021 pourrait être jouée avec 30% du public dans les stades. L'Argentine reçoit cette semaine 1 million de doses du vaccin Sinopharm, fabriqué en Chine, qui a reçu une autorisation d'urgence ce week-end. La vaccination des personnes de plus de 70 ans est déjà en cours dans la plupart des 24 provinces, avec le Sputnik V russe et le Covid Shield produits en Inde. Depuis le début de la campagne en décembre, plus de 480 000 personnes ont été vaccinées, dont 264 000 ont déjà reçu les deux doses. Comme l'a annoncé le gouvernement national, avec Sinopharm, va commencer la vaccination des enseignants, alors que l'année scolaire 2021 commence avec présence dans les salles de classe. Pendant ce temps, la controverse se poursuit sur la vaccination de fonctionnaires et de dirigeants politiques en dehors des registres généraux et des listes d'attente. La semaine dernière, un journaliste connu, Horacio Verbisky, a révélé sur une station de radio qu'il avait réussi à se faire vacciner après avoir appelé le ministre de la Santé de l'époque, Ginés González García. L'affaire, que certains médias ont appelé le vaccinateur VIP, a conduit à un scandale qui a incité le président Alberto Fernández à demander la démission de González García vendredi dernier. Le lendemain, sa successeuse, Carla Bisotti, a ordonné de publier la liste des personnes vaccinées sans rendez-vous afin de clarifier les faits. Selon la nouvelle responsable, l'épisode a été exceptionnel, ponctuel et erroné, et elle a écarté toute existence d'un régime de vaccination parallèle et systématique pour les privilégiés. Bisotti a assuré que la plupart des personnes vaccinées qui figurent sur la liste, comme le ministre de l'économie Martin Guzmán, sont du personnel stratégique pour le fonctionnement de l'État. Suite à la controverse, la ministre a ordonné de définir les exigences à respecter pour être vacciné dans cette catégorie et la création d'un système de suivi de ces applications. Le président Fernández a qualifié l'affaire de répréhensible et a déclaré que, bien qu'elle soit exceptionnelle, elle ne peut être approuvée. Ginés a été un grand ministre et je l'aime, mais ce qu'il a fait est impardonnable, a déclaré le président qui a reconnu la performance de González García. La principale coalition d'opposition, Junto por el Cambio, Ensemble pour le Changement, a publié une déclaration condamnant l'incident et affirmant que l'administration Fernández a déçu tout le monde. Ils ont également dénoncé l'ancien ministre devant les tribunaux, qui ont déjà ordonné une inspection au ministère de la Santé. C'est ainsi qu'a rapporté France 24 toute cette situation.
Le scandale est arrivé par un journaliste âgé de plus de 70 ans qui a expliqué comment il s'est fait vacciner au ministère de la Santé, suivant les indications de son vieil ami, le ministre Ginés González García. Au moins 10 proches du gouvernement auraient été vaccinés sans suivre la procédure officielle, de quoi provoquer la colère des Argentins. Sur les réseaux sociaux, ils dénoncent ses passe-droits sous le hashtag VaccinVIP. Face au scandale, le président Alberto Fernández a demandé à son ministre de la Santé de démissionner. González García était à ce poste depuis 2019 et il a annoncé son départ dans une lettre publiée sur Twitter.
Je démissionne de mon poste de ministre de la Santé. Les personnes vaccinées appartiennent au groupe inclus dans la population cible de la campagne actuelle. La confusion involontaire de mon secrétaire personnel, qui a appelé les personnes vaccinées dans ce ministère, a eu lieu alors que j'étais dans la province d'Entre Ríos. J'assume la responsabilité de cette erreur.
Une erreur qui ne passe pas dans ce pays qui a franchi le cap des 50 000 décès liés au Covid-19, et alors que l'Argentine compte plus de 2 millions de cas de contamination. La classe politique du Pérou est elle aussi secouée par un scandale similaire. 487 personnalités ont été vaccinées, en toute discrétion, avant même le début de la campagne d'immunisation.
Le président Alberto Fernández a annoncé qu'à partir du mois d'avril, le vaccin développé par l'Université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca sera disponible en Amérique latine. Il l'a dit au Mexique lors d'une réunion avec son homologue local, Andrés Manuel López Obrador. Il faut rappeler que le vaccin d'origine britannique est développé dans ces deux pays pour approvisionner le continent. Les principes actifs sont produits en Argentine et le conditionnement est fait au Mexique. De son côté, l'Uruguay commencera sa campagne de vaccination le 1er mars. Le président uruguayen, Luis Lacalle Pou, a informé que le pays recevra des livraisons de vaccins Sinovac et Pfizer. Finalement, Cuba entame la phase 3 des tests de son propre vaccin contre le Covid, le Soberana 02, qui vise à produire environ 100 millions de doses, plus que suffisantes pour immuniser toute sa population et pouvoir l'exporter. Les autorités électorales équatoriennes ont déclaré que le second tour des élections du 11 avril se déroulera entre le centre-gauchiste Andrés Arauz et le candidat de droite Ernesto Lasso. Elles ont ainsi mis fin à la dispute pour la deuxième place entre Lasso et le leader indigène Yaku Pérez, qui ont obtenu 19,74% et 19,39% des voix aux élections du 7 février. Pérez a toutefois déclaré qu'il ferait appel à la décision du Conseil national électoral et a appelé ses partisans à manifester contre ce qu'il a appelé la fraude. Les analystes prédisent que le second tour sera un affrontement entre ceux qui soutiennent l'ancien président Rafael Correa et ceux qui s'y opposent. L'ancien président est le mentor politique d'Andrés Arauz, qui a remporté le premier tour avec plus de 32% des voix. Correa, qui a gouverné entre 2007 et 2017, réside en Belgique et a été condamné pour corruption en Équateur sur la base d'accusations qu'il nie. Hier, l'ancien président a condamné la décision du Conseil national électoral d'expertiser les ordinateurs utilisés pour le comptage du premier tour. Correa a accusé le gouvernement actuel de vouloir retarder le ballotage du 11 avril dans une manœuvre qu'il a qualifiée de tentative de coup d'État. De son côté, le Salvador se rend aux urnes dimanche 28 février pour élire ses législateurs. L'Organisation des États américains a envoyé une mission d'observateurs aux élections, dirigée par l'Argentine Maria Eugenia Vidal, ancienne gouverneure de la province de Buenos Aires. Le Mexique célèbre 200 ans d'indépendance dans le cadre d'une série de commémorations emblématiques lancées par le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador. La déclaration d'Iguala, signée le 24 février 1821, proclamait l'émancipation de la Nouvelle-Espagne, non coloniale du Mexique. Tout au long de l'année 2021, d'autres jalons de l'histoire mexicaine seront également rappelés dans les événements marqués par la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire sans réunion de masse. Une autre des 15 commémorations est le 700e anniversaire de la fondation de Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque et site de l'actuelle ville de Mexico. De plus, cette année marque 5 siècles depuis la chute de Tenochtitlan aux mains des conquistadors espagnols dirigés par Hernán Cortés. Cet anniversaire sera commémoré comme les 500 ans de la résistance indigène. Le gouvernement argentin lance un conseil économique et social responsable d'élaborer des politiques à long terme dans les domaines de l'éducation, de la technologie, de l'emploi, des retraites et de l'environnement, entre autres. Il est composé de représentants des entreprises, des syndicats et des universités. Ses membres, qui travailleront à titre honorifique, se réuniront une fois par mois et devront rédiger un projet qui sera présenté au Congrès national. D'après le décret portant création de cet organisme, celui-ci s'inspire d'expériences similaires dans d'autres pays qui ont conçu des mécanismes pour promouvoir le dialogue vers un consensus pour le développement. La résolution cite en exemple les Pays-Bas en 1950, la France en 1958, l'Irlande en 1973 et le Brésil en 2004. L'un des membres du Conseil, Hector Daed, secrétaire général de la CGT, a salué sa création et manifesté son espoir qu'elle réduise les inégalités sociales. Carlos Acetoni, de la Fédération Agraire, a souhaité que le Conseil génère la confiance nécessaire pour réduire l'inflation. L'opposition, quant à elle, a demandé pourquoi la réunion ne comprenait pas de représentants des partis politiques ou du Congrès. Sans cette participation, a déclaré le leader de l'opposition Mario Negri, il ne peut y avoir de consensus sur la continuité des stratégies à travers les différents gouvernements. En Colombie, l'armée est accusée d'avoir exécuté plus de 6000 civils et de présenter ces morts comme des guérilleros tués au combat. Ce nombre a été communiqué par la Juridiction Spéciale pour la Paix, la JEP, une commission créée par les accords de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et le groupe d'insurgés des FARC. Il y a quelques jours, la JEP a certifié qu'entre 2002 et 2008, 6402 exécutions extrajudiciaires ont été commises et signalées comme des victimes dans des affrontements armés. L'enquête estime que quelques 1500 soldats ont commis ces crimes pour présenter de meilleurs résultats à leurs supérieurs dans la lutte contre la guérilla. Il n'y a rien de semblable dans le monde, a dénoncé José Vivanco, directeur de Human Rights Watch pour l'Amérique latine, à propos des faux positifs. Il a également affirmé que les officiers en uniforme recevaient des stimulants économiques en fonction du nombre de rebelles tués. Pour sa part, Álvaro Uribe, le président colombien pendant la période d'enquête, a de nouveau nié les accusations et a qualifié Vivanco de militant des FARC. Uribe et l'actuel président Iván Duque sont connus pour s'opposer aux accords de 2016, qu'ils estiment trop favorables aux anciens insurgés. Sport. L'organe directeur du football sud-américain, la Conmebol, veut que la Coupe Amérique se joue avec une fréquentation réduite à 30% de la capacité des stades. Le tournoi, qui se déroule en Argentine et en Colombie, devait avoir lieu l'année dernière, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. La Conmebol a souligné que le dernier mot sur la présence du public sera des autorités sanitaires des pays hôtes. La Coupe Amérique est le plus important tournoi de football d'Amérique du Sud, l'équivalent de la célèbre Coupe d'Europe. L'Argentine espère la remporter pour la première fois depuis 1993. Après avoir perdu la finale des éditions 2004 et 2007 contre le Brésil et en 2015 et 2016 contre le Chili. Le tournoi débutera le 11 juin et se terminera le 10 juillet. Allez, musique ! La semaine dernière, nous avons parlé de Plus Loin, campagne mondiale digitale de communication, qui en Argentine a été lancée par l'ambassade de France, l'Institut français et le réseau des alliances françaises dans le pays, proposant, grâce à la langue française, d'aller plus loin dans les études, l'expérience de la vie, les rêves, les voyages et les parcours professionnels. Pour l'Argentine, nous allons partager les participations de la danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Ludmila Pagliero, du meilleur pâtissier de l'Amérique latine, Osvaldo Gross, et de l'ancien rugbyman et chanteur lyrique, Omar Hassan.
Attention, il faut concentration. Ton tête... Non, pardon. Ton tête à tilo, tête à tout. J'arrive ici. Moi, je suis danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Je danse à l'Opéra Garnier, à l'Opéra Bastille. Je vis sur les planches du théâtre. Je partage mon art avec un public. J'espère bientôt retrouver tout le monde parce que ça commence à être long là. Quand j'étais petite, mon premier rêve, c'était d'être scientifique. J'aimais bien ce truc de... mélanger des choses qui s'explosent et tout ça. Et après, j'ai connu la danse. Et du coup, très vite, mon rêve était de devenir danseuse. En Argentine, au début, où je suis née. Et après, la vie m'a menée jusqu'à la France. J'en ai eu deux moments clés. Le premier, c'était quand le directeur du ballet de Santiago où je travaillais m'a appelé pour rejoindre la compagnie. Et du coup, c'est lui qui m'a déjà aidé à diriger un peu ma carrière. Et le deuxième moment clé, c'est un ami, Bernard, que j'ai rencontré à Santiago. Et c'est lui qui m'a mis en tête l'idée d'auditionner à l'Opéra de Paris pour faire partie de la compagnie. Et donc, c'est grâce à lui, en fait, que je suis arrivée en France. Plusieurs fois d'affilée, ouais, je crois. Attention, il faut concentration. Ton tête, non. Ton tête à tilo, tête à tout. Ton tête à tilo, tête à tout. Voilà, là, ça commence à être mieux.
J'ai des élèves dans le monde entier, du Canada au Soya, dans toute l'Europe, en Asie, en Afrique, en Australie et la Nouvelle-Zélande. Moi, je suis chef pâtissier et je dirige une école professionnelle de pâtisserie, ici, à Buenos Aires, en Argentine. Quand j'étais enfant, j'ai rêvé de parcourir le monde entier avec ma carrière. Ah, le moment clé de ma carrière, c'est 2014, quand mes collègues ils ont décerné le titre de meilleur chef pâtissier de l'Amérique latine. Le secret de mon succès, j'explique de façon compréhensible le domaine de la pâtisserie. Avec des mots français, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est voir mes anciens élèves et réussir dans les ateliers, dans les usines de pâtisserie, dans le monde entier. Dans ce monde dont j'ai rêvé quand j'étais gosse, haute comme trois pommes. Non, c'est très rapide, mais je ne peux pas. Un pâtissier qui pâtissait, je sens un tapissier qui tapissait, demanda un jour au tapissier qui tapissait. Vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou chez un pâtissier qui pâtisse?
La petite, petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. Avant, j'étais rugbyman professionnel pendant de nombreuses années. Je jouais pour l'équipe d'Argentine et mon dernier club a été le Stade Toulousain, ici en France. Et aujourd'hui, je suis artiste lyrique, chanteur. Quand j'étais petit, je voulais être curé. Ça fait beaucoup rire ma grand-mère en sachant l'enfant terrible que j'étais. Bon, après, j'ai très vite changé pour le rugby et surtout pour la chanson. J'ai eu des moments clés dans ma carrière. Le premier, je peux dire, c'est celui où, quand je décide de partir d'Argentine pour tenter le rugby professionnel. D'abord en Nouvelle-Zélande, après en Australie, et finalement, c'est la France qui m'accueille depuis 22 ans et dans lequel je peux m'épanouir même aujourd'hui. Et le deuxième moment important, c'était la découverte aussi de mon autre passion, le chant, et dans lequel aujourd'hui, c'est mon métier. J'aime beaucoup les gens, j'aime toujours le partage et j'aime toujours échanger. Je m'implique souvent aussi auprès de ces associations pour les amener un peu de bonheur à tous ces enfants qui ont besoin de réconfort et un sourire. Si près, 606 près. Non, 606, ouais, je me perds.
C'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin.
Le petit bonhomme en mousse qui s'est lancé et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite, petite marionnette qui s'est allée. C'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Quand ta vie se traîne, quand t'as de la peine, quand personne t'aime, que t'as des problèmes. Quand la vie est dure, plus une aventure, rien que des blessures, vilaine figure. Ne pleure pas, ne t'en fais pas. Petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite, petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. C'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. La 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 la
bienvenue aux amis d'actualitédx.com.ar pour une nouvelle édition de notre rubrique sur les ondes courtes et le web, une production de Arnaldo Slaen. Dans cet espace, nous vous proposerons quelques-unes des nouvelles les plus pertinentes du monde de la radiodiffusion. La voie de l'intégration avec les signaux publics latino-américains que développe RTA, Radio-Télévision Argentine, s'est récemment élargie à la République de Colombie. La présidente de RTA, Rosario Lufrano, et le directeur de Radio-Télévision Nationale de Colombie, RTVC, LARP, Álvaro Eduardo García Jiménez, ont signé un accord qui permettra l'échange de contenus audiovisuels tels que des documentaires éducatifs. Cela inclut journaux télévisés et divertissements pour travailler à la coproduction de contenus, au développement de projets spécifiques entre les deux institutions, à la promotion et à la diffusion de ces matériels avec un soutien et une assistance mutuelle à la production. À l'occasion de la célébration de cet accord, Álvaro Eduardo García Jiménez a déclaré que pouvoir signer cet accord entre RTVC et RTA est une grande joie en raison des liens d'amitié et d'affection qui m'unissent à l'Argentine. En tant que journaliste, je suis conscient de l'importance de RTA, qui est une grande référence pour les médias latino-américains, pour sa tradition, pour la qualité de ses productions, pour sa créativité, pour sa capacité d'innovation et parce qu'ils ont une grande vocation de travail public. Cet accord intervient à un moment très particulier, puisque les médias publics ont renforcé leur pertinence dans notre pays. Cette alliance entre l'Argentine et la Colombie ouvre des portes très importantes pour renforcer notre capacité de production. Je suis très heureux de pouvoir considérer les résultats de ce travail commun, a conclu García Jiménez. D'autre part, Rosario Lufrano a déclaré que c'est un honneur pour nous de signer cet accord. Nous sommes convaincus que le moment des alliances est indispensable pour nos chaînes et pour nos radios et que l'Amérique latine peut montrer son identité en faisant connaître ses valeurs sur différents écrans, non seulement les nôtres, mais aussi sur les plateformes qui sont aujourd'hui bien installées et qui ont besoin de contenu. Je pense que c'est une grande opportunité que nous avons si nous utilisons nos outils, nos ressources, notre créativité et notre imagination pour pouvoir étendre notre portée et être connus. Nous sommes très heureux de pouvoir partager notre contenu avec vous et de penser à coproduire ensemble, a déclaré la présidente de RTA. Cet accord avec la République de Colombie s'inscrit dans la stratégie d'intégration développée par RTA avec les institutions publiques de radio et de télévision en Amérique latine. Dans le cas du Brésil, elle a permis d'établir un lien avec les États de Pernambuco et de Bahia, alors que des accords ont également été conclus avec l'Équateur, l'Uruguay et récemment avec la Bolivie. Le Costa Rica et Cuba ont récemment signé un accord cadre de coopération entre le Système national de radio et de télévision, SINART, et l'Institut cubain de radio et de télévision, ICRT, pour l'échange de matériel audiovisuel. La présidente exécutive de SINART, Lorna Chacón, et l'ambassadeur cubain au Costa Rica, Jorge Rodríguez, ont signé le document au siège de l'institution autonome, respectant ainsi les mesures sanitaires strictes dues à la pandémie de COVID-19. L'accord établit l'échange de contenus audiovisuels et radiophoniques, en particulier les documentaires, les programmes de divertissement, éducatifs et informatifs, générés par chacune des parties, ainsi que la promotion et la diffusion des contenus par le biais de signaux de télévision, de radio et de plateformes numériques, ainsi que de leurs réseaux sociaux. Il prévoit également un soutien et une assistance mutuelle pour la production de contenus, la promotion et la diffusion d'activités culturelles, éducatives et informatives, ainsi que la fourniture de conseils techniques et d'activités de formation. Enfin, il permet de mettre en place des projets de coopération spécifiques coordonnés par les deux parties. Chacón a déclaré à Prensa Latina que la signature de l'accord permet de formaliser l'échange de matériel audiovisuel initié depuis 2020 et nous fait réfléchir à des coproductions comme celles réalisées avec le système public d'autres nations latino-américaines. Il a souligné que la diffusion de matériel audiovisuel nous permet de rendre visible au public des autres nations l'idiosyncrasie et la culture de nos peuples. Pour sa part, l'ambassadeur cubain a salué l'importance de cet accord pour son pays car il officialise une relation qui existe déjà depuis des années. Et il a souligné que la mission diplomatique cubaine au Costa Rica a toujours bénéficié de la coopération et des facilités de SINART pour transférer la culture et l'information de Cuba. Il a précisé que le Costa Rica a actuellement des développements et des expériences dans des domaines pertinents pour Cuba, tels que le tourisme et l'agriculture. Bien qu'il s'agisse d'un crime fédéral, 6 stations de radio clandestines fonctionnent au Mexique, dans la région de Tepexi, de Rodríguez, et 6 autres à Acatlán, toutes deux appartenant à la région de Mixteca, des émissions en modulation de fréquence. Dans le Tepexi, on peut capter La Tremenda sur 96.7, Aizcaquitla sur 92.3, La Imponente, Amolcaxac sur 101.1, La Arrolladora, à Huahuatempan sur 96.3, La Caliente, à Atozatempan sur 91.5, Impacto, et sur 95.1, La Mega. Ces stations de radio fonctionnent depuis 3 ans, inaugurant une fréquence radio après l'autre sans payer de droits ni de redevances, ni respecter les obligations fiscales, syndicales ou de travail, et sans concession de l'Institut fédéral des télécommunications. Comme d'autres stations de radio pirates, elles obtiennent des profits importants alors que les jeunes ou les personnes qu'elles recrutent comme présentateurs ne reçoivent pas de salaire, mais seulement un pourcentage minime de ce qu'ils perçoivent des publicités. Ainsi se termine ce programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde.